Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Filles de l'Histoire. août 1589, Henri III vient de mourir. Au pied de son lit, Henri de Navarre, qu'Henri III vient de déclarer son héritier. Voilà donc Henri IV. Le peuple de Paris est content de cet assassinat. Il n'aimait pas du tout Henri III. La Ligue, elle, ne veut pas entendre parler d'un Huguenot comme roi. La Ligue, je vous rappelle, une association d'ultra-catholiques avec à sa tête le duc de Guise. Alors il faut montrer l'inanité des droits de l'usurpateur de la couronne, comme on l'appelle. Dans les imprimeries parisiennes, alors on met sous presse des libelles qui disent qu'Henri n'est pas français, que c'est un bâtard. En réalité, Henri de Navarre est bien le seul rameau familial qui reste. Il descend, après qu'on ait épuisé, n'est-ce pas, tous les descendants de Saint-Louis, eh bien lui, il descend du dernier fils de Saint-Louis, c'est un Bourbon, et il en est l'aîné. Alors le nouveau roi quitte Saint-Cloud avec 8 de ses fidèles, qui par prudence ont mis des cuirasses sous leur pourpoint. Il est ovationné, bien sûr, par les troupes huguenotes. Dans l'émission précédente, je vous disais qu'Henri III mourant a fait jurer à tous les gentilshommes présents d'accepter pour roi Henri de Navarre. Ils l'ont fait, mais le roi mort, ben vous le devinez, ils refusent d'honorer le serment qu'ils ont prononcé. Ils sont catholiques. Finalement, on peut dire que trois tendances se font jour. Il y en a certains qui accepteraient de reconnaître Henri IV sans condition. D'autres qui accepteraient sous condition d'une abjuration immédiate, et d'autres enfin préfèrent refuser et se retirer chez eux afin de voir venir. Henri IV, lui donc, prend le deuil du roi, il prend le deuil en violet, et il convoque ses conseillers. Les avis sont partagés. Finalement, il décide de ne pas quitter le bassin parisien. Les grands seigneurs catholiques se sont réunis pour écrire une motion. On envoie François Dau porter cette motion à Henri IV. Ultimatum. Nous vous reconnaissons comme roi si vous abjurez immédiatement. Alors Henri rappelle les dernières volontés de Henri III et le caractère imprescriptible de ses propres droits à la couronne. Il refuse l'ultimatum. Les catholiques alors reconnaissent Henri IV comme roi, mais sous certaines conditions. Il faut qu'il s'engage sur les termes d'un véritable traité. Il doit promettre de maintenir la religion, de n'y apporter aucun changement de dogme ni de discipline et de ne confier les bénéfices ecclésiastiques qu'à des catholiques. Il s'engage à se soumettre pour sa religion aux décisions d'un concile général. Tous les emplois publics vacants seront confiés à des catholiques. La religion réformée est autorisée dans le secret des maisons et en public dans les places qui seront octroyées aux Huguenots. Les états généraux seront réunis tous les 6 mois. Eh bien, Henri IV accepte. J'ajouterai pour l'instant. Il envoie des dépêches aux nations amies pour obtenir leur reconnaissance. Alors, c'est-à-dire à l'Angleterre, à l'Écosse, aux Pays-Bas, aux princes allemands, et tous ces gens-là acceptent le nouveau roi. Et la République de Venise aussi. Or, la République de Venise n'est pas protestante, hein, elle est catholique. Ceux qui faisaient partie de l'armée regagnent leur pénate et le roi garde avec lui une petite armée avec une artillerie. Les ligueurs, eux, ne désarment pas, si bien que l'affrontement se fait en Normandie. Les Anglais et les Écossais viennent renforcer l'armée de Henri IV et le roi est vainqueur à Arques. Alors, il se dirige vers Paris, il se présente dans la plaine de Grenoble. Les Parisiens et la population des faubourgs, eux, décident de se défendre. La bataille s'engage. Au faubourg Saint-Jacques, Henri est accueilli au cri de « Vive le roi !» mais les ligueurs avec Mayenne et Nemours arrivent. Ils entrent dans Paris. Henri décide alors de se rendre à Tours. En chemin, il prend des villes telles que Janville, Châteaudun, Vendôme. Depuis un an, la France, pourquoi Tours ? Parce que depuis un an, la France est le royaume de Tours, comme elle a été, si vous vous souvenez, pour Charles VII, le royaume de Bourges. Henri III, d'ailleurs, s'y était installé. 200 conseillers du Parlement, allergiques à la Ligue et à leur chef, s'y trouvent, avec le président de Harlay. Le Parlement tourangeau, lui, a reconnu le nouveau roi. La population lui est aussi favorable, et même le clergé, qui, en son honneur, a composé une chanson de 34 couplets. Donc, Hilde se crée à Tours, donc un mini-gouvernement. La situation en France est mitigée. Les gouverneurs du Berry, du Bourbonnais, de la Marne, du Limousin se prononcent pour le roi. Le Parlement de Rennes aussi. Je vous rappelle qu'un Parlement, ce n'est pas du tout le Parlement actuel, c'est une cour de justice. Celui de Bordeaux hésite. Le Parlement de Grenoble, lui, est farouchement pour la Ligue. En Languedoc, Montmorency soutient la cause d'Henri IV, mais le Parlement de Toulouse, lui est opposé. Devant cette situation, il n'est pas question alors de réunir les États généraux. Henri IV ne reste que 8 jours à Tours, il choisit d'installer une base de sécurité dans les Pays de la Loire. Il prend Le Mans, puis Laval, le clergé l'acclame, cette fois-ci en musique. Le roi se voit récompensé de ses efforts pour faire connaître sa politique. Sa politique, quelle est-elle ? C'est une politique de tolérance et d'ouverture. Il a ordonné de respecter la religion catholique, de protéger les personnes et les biens des gens d'Église. Il a remis dans leur siège les prélats modérés que la Ligue avait chassés. Alors il y a certains protestants qui ne sont pas contents, ils grognent. Henri IV conquiert la Normandie et apprenant que Mayenne et les Ligueurs ont récupéré Vincennes, Pontoise et Poissy et qu'ils se présentent devant Ivry, ils se dirigent alors vers l'Eure, arrivent à Nonancourt et la bataille s'engage. Alors je vous passe tous les détails, c'est un petit peu long. La victoire est acquise par le roi à Ivry qui devient Ivry-la-Bataille. Nous allons faire une première pause musicale.
Laudem Virgine Mater est, et eius filius Iesus est, langa mucelera acriter, sperantes in Iesus. Splendet septi gera nostris is advocata Virgo puer pera. Tundente spectora crimina confitentes simus Laudemus Virgine Mater est, et eius filius Iesus est. Langa mucelera acriter, sperantes in Iesum iugiter. Splendens septi gera nostris is advocata Virgo puer pera, tumente spectora crimina confidentes simus
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous parle d'Henri IV. Donc le soir même, il couche au château de Rosny, château qui appartient au duc de Rosny. On va voir plus loin qu'il s'agit de Sully. Chez l'adversaire, la déconvenue est grande. À ce succès s'en ajoutent d'autres en Auvergne, en Lorraine, à Bordeaux. Mais les Parisiens résistent toujours, soutenus par qui ? Par un catholique, Philippe II d'Espagne, bien sûr, et le pape Sixte Quint. Henri IV essaie des ouvertures pacifiques. Il faut donc tenter le siège de Paris. Comme son armée n'est pas suffisamment importante, il décide alors d'avoir les Parisiens par la famine. Alors c'est un peu surprenant pour un bon roi qui était naturellement porté à soulager la misère du peuple, hein, mais c'est un moyen absolument terrible. L'explication est peut-être que, tout comme Montaigne, il est incapable de comprendre le fanatisme. La foi qui appelle au martyr lui échappe complètement. Pour lui, ces catholiques zélés-là qui s'opposent à lui ne sont pas des êtres raisonnables, galvanisés par une croyance sincère. Ce sont des exaltés qui ont perdu la raison. Alors il pense que dès que les souffrances vont commencer, la population va recouvrer ses esprits. Eh bien, il va être détrompé. L'investissement commence le 7 mai. Un mois plus tard, les restrictions commencent à se faire sentir cruellement. De son camp d'Aubervilliers, Henri IV s'adresse alors aux Parisiens. Il leur promet sa grâce et son affection et s'engage à les maintenir dans la religion catholique s'ils le laissent entrer dans la ville. L'appel reste sans réponse. Alors il fait bombarder la ville et s'empare de Saint-Denis. Deux autres appels suivent, toujours sans réponse. Donc, assaut général le 27 juillet. 10 faubourgs de la rive droite sont pris. Mais les Parisiens ne cèdent pas. L'affreux mois d'août 1590 commence. Philippe II d'Espagne vient au secours des ligueurs. L'armée espagnole arrive à Meaux et marche sur Paris. L'armée de Henri IV est battue. Tout le dispositif mis en place pour le blocus a volé en éclats. L'année 1590 s'achève. Arc et Ivry sont loin. Henri IV, finalement, est revenu à son point de départ. Alors, il reprend les armes. Les efforts du roi vont se porter où ? Sur Chartres. Pourquoi Chartres ? Tout simplement pour les beaux yeux d'une dame, Gabrielle d'Estrée, dont Henri IV est tombé amoureux. Et toute sa famille espère tirer profit de cette situation. François de Sourdis, son oncle, a perdu le gouvernement de Chartres à cause des ligueurs, et il espère ainsi le récupérer. Donc Henri IV arrive devant la ville le 19 février 1591. Les Chartrains résistent plus longtemps qu'on le pensait. La population est convaincue que Notre-Dame de Chartres combat avec eux contre les hérétiques. Finalement, la ville se rend avant que Mayenne n'ait pu la secourir. Le roi y fait son entrée le 19 avril. De là, il repart en Picardie où il prend Noyon. Puis il se présente devant Rouen, dont les habitants résistent. Échec. Rouen est libéré par l'armée des Ligueurs et les Espagnols conduits par Farnèse. Les Espagnols dominent la Bretagne et le Maine. Ils sont aussi vainqueurs en Languedoc et en Guyenne, si bien que la situation en ce début de 1592 est vraiment mauvaise. Oui, mais finalement, des deux côtés, on en a assez. Alors les tractations commencent. Un accord est conclu dans lequel une phrase est très importante. Le roi promet son instruction dans un temps préfixé avec désir et intention de s'unir et joindre à l'Église catholique, moyennant la dite instruction faite comme il convient à sa dignité. Le pape Clément VIII en est informé, il est tout content. On appelle cette déclaration l'expédient du 4 avril 1592. Bon, ça n'empêche pas les escarmouches de continuer. On réunit les états généraux. La séance ouvre le 26 janvier 1593 au Louvre. Ils sont réunis pour élire un roi catholique. Henri IV séjourne à Chartres. Vous savez qu'il a séjourné en haut de la rue Chanteau. Il se fait tenir au courant de ce qui se passe à Paris. Le 4 février, l'Assemblée accepte de mettre en délibération un projet de conférence entre les États généraux et le roi de Navarre. Le roi d'Espagne, lui, ne veut pas qu'on vote pour Henri IV. Il fait distribuer beaucoup d'argent pour que la couronne aille à qui ? À lui, Philippe II. Son ambassadeur Feria est absolument arrogant, si bien que quand il propose ses sous il propose de l'argent pour ça, hein, aux députés, et bien les députés ne sont pas contents parce qu'il est vraiment trop prétentieux. À Suresnes, le 29 avril 1593, se réunissent d'autres États, les États protestants. Le roi annonce qu'il se fera catholique. Les députés des États généraux rejoignent alors les protestants à Suresnes. Les paraissiens, massés à la Porte Neuve, les habitants de Chaillot et d'Auteuil crient « La paix, la paix !» Alors la rencontre a lieu, tout le monde s'embrasse. Le 16 mai, Henri IV déclare ouvertement son intention d'abjurer la religion réformée. La date et les modalités de la cérémonie sont fixées. Les Espagnols ne sont pas contents parce que le trône de France leur échappe. Quand je dis les Espagnols, c'est Philippe II, bien sûr. Hein. 23 juillet 1593, donc nous sommes à Saint-Denis, c'est la grande journée d'initiation. Pendant 5 heures, les évêques argumentent avec Henri IV, mais ils sont vraiment étonnés de ses connaissances. Le dimanche 25 juillet, l'affaire est conclue. La foule des Parisiens envahit l'église. Alors on a dit que Henri IV avait dit « Paris vaut bien une messe ». Il semble que ce soit quelque chose d'inventé après. Donc le roi sort du palais abbatial, tout vêtu de blanc, avec un chapeau et une cape noire. L'allégresse est générale, le roi se présente devant le portail et il demande qu'on lui ouvre la porte. L'archevêque de Bourges prononce « Qui êtes-vous? Que demandez-vous? Le voulez-vous ?» Le roi s'agenouille et fait profession. Alors il y a un tédéum qui éclate bien sûr sous les voûtes. Le roi se confesse, il entend la messe, il communie, il dîne en public, tout le monde est content. Il choisit l'abbaye de Montmartre pour des prières d'action de grâce. La Ligue, elle, fait vilaine figure, elle ne désarme pas. Les tentatives d'assassinat vont se succéder. Chez les Huguenots, son vieil ami Mornay est bouleversé parce que lui ne veut pas se convertir. Henri IV veut le revoir, il se retrouve alors à Chartres, aussi ému l'un que l'autre. À Londres, la reine Élisabeth, elle pousse les houkris, pas contente du tout de cette conversion. Pendant 4 ans, les ligueurs vont continuer leur menée. Alors il reste à sacrer le roi. Reims est encore aux mains des ligueurs. Des historiographes font remarquer que la tradition rémoise, finalement, n'est pas exclusive. On pense à Chartres. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous parle d'Henri IV et du sacre. On pense donc à Chartres. C'est la cité de la Sainte Vierge, c'est une ville voisine des domaines de la famille Bourbon-Vendôme. Une grande chapelle le rappelle d'ailleurs dans la cathédrale. Hein, quand vous entrez dans la cathédrale, elle est sur la droite. Le souvenir de Saint-Louis, l'ancêtre, est vivant sur les grandes verrières au nord. Alors, il faut aussi l'huile sainte. Ah oui, mais l'ampoule est à Reims. Alors on cherche et on trouve à l'abbaye de Marmoutier une autre ampoule dont l'ancienneté dépasse même l'onction de Clovis. La cérémonie est présidée par l'évêque Nicolas de Thou, Dans la tourmente des guerres, tous les instruments sacrés ont disparu. Alors vite, 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 on demande aux orfèvres de fabriquer une couronne, un sceptre, la main de justice, les éperons, l'épée, et puis on demande aux brodeurs et aux tapissiers de se dépêcher aussi de faire un grand manteau, des ornements pour le cœur, c'est-à-dire des tapis, des tentures, et un dais. Dès 3 heures du matin, le dimanche 27 février 1594, la foule se presse aux portes de la cathédrale. La longue cérémonie, longue et fastueuse, va commencer. Un festin suit à l'évêché, à droite du roi, les pères ecclésiastiques, à gauche, les pères laïcs. Le soir, le dîner est moins protocolaire. La sœur du roi, Catherine, est à ses côtés. Vous rappelez qu'elle est huguenote et qu'elle n'a pas paru alors à la cathédrale. Maintenant, Henri IV se dirige vers Paris. Il s'y présente, le gouverneur de Paris l'accueille, lui fait présent d'une écharpe, le prévôt des marchands lui tend les clés de la capitale. Henri IV, alors, marche dans Paris et les habitants l'acclament. Comme quoi on peut retourner une population, hein. Il arrive à Notre-Dame. L'affluence est telle qu'il peine à se frayer un chemin. Il entre dans la cathédrale pour le Te Deum. Il loge au Louvre, qu'il trouve bien moche. Les jours suivants, Henri IV assiste à tous les matins à la messe, dans une église différente pour se faire connaître. Il veut effacer le passé et les divisions internes. Dès le 28 mars 1594, il promulgue un édit confirmant l'exercice du culte catholique à Paris et alentour. Il allège les dettes de la population et il amnistie les rebelles. Seulement, toutes ces cérémonies, toutes ces guerres, finalement, il est épuisé, il tombe malade, à une fièvre persistante, et elle se complique d'une crise d'érysipèle au visage. Il aspire à des vacances, alors il part, oh pas très loin, il part à Saint-Germain-en-Laye. Il dit que l'air y est plus pur. À la fin mai, il faut se souvenir quand même que la guerre continue, parce que les ligueurs, pendant 4 ans, je vous ai dit tout à l'heure, ne vont pas désarmer. Donc, il faut mener l'armée en Picardie, car le nouveau gouverneur des Pays-Bas, l'archiduc Ernest de Habsbourg, envahit la France. Alors, les Pays-Bas, je vous le rappelle, appartenaient à l'Espagne. Henri est vainqueur à Laon, Château-Thierry, Amiens, et je vous laisse la suite, il y en a beaucoup. Les Guisards alors demandent la paix. Henri reçoit somptueusement aussi l'ambassade de Venise. Sa maîtresse, Gabrielle d'Estrée, si pavane, couverte de bijoux. Alors un passant demande à un garde qui est là, mais qui est donc cette personne? Et il s'entend répondre, c'est la putain du roi. Elle n'a pas été aimée du tout. Les tentatives d'assassinat se poursuivent. À chaque fois, on est sûr de retrouver derrière chaque régicide, qui donc? Les jésuites. Le Parlement réagit avant même le roi. Le 29 décembre, il prend un arrêté pour expulser tous les jésuites de tous les collèges de France et on leur donne 15 jours. La guerre reprend contre l'Espagne et se termine à l'avantage de la France par le traité de Cateau-Cambrésis. Les Espagnols cèdent la ville de Calais, Ardres, Montilion, Doyon, plein de villes du Nord, hein, et puis une ville en Bretagne, Blavet. Le roi d'Espagne, lui, meurt le 13 septembre 1588. Ouf ! La maîtresse officielle du roi, Gabrielle d'Estrée, va lui donner 3 enfants que Henri va reconnaître. Et il se décide à se démarier de Margot. Oui, il est toujours marié à Marguerite, la dernière sœur de Valois. Alors, démarier, oui, mais pour épouser qui ? Eh bien, Gabrielle, elle s'est mise en tête de se faire épouser par le roi. Mais l'embêtant, c'est qu'elle est mariée à monsieur de Liancourt. Seulement, ça a été un mariage blanc. C'est facile à casser. Alors, la sentence d'annulation est rendue le 24 décembre 1594. Donc, la voilà libre, elle. Maintenant, elle loge au-dessus carrément des appartements du roi. Le roi lui constitue une véritable maison royale. Il fait même faire son portrait. Il fait construire la grande galerie du Louvre et sur le bâtiment, on voit apparaître, entrelacées, les initiales HG. Les conseillers les plus proches du roi font semblant de sourire à la favorite, mais ils reprochent au roi sa conduite et sa prétention à la faire couronner. La noblesse, elle, se trouve humiliée par le choix de cette reine qui n'en est pas une et à laquelle pourtant il faut rendre les honneurs. Arrive Pâques 1599. Le confesseur du roi lui demande, pour Pâques, d'être à Fontainebleau et de se séparer momentanément de Gabrielle. Alors Gabrielle, elle va suivre les offices, elle, dans la capitale. Elle arrive à Paris, elle gagne la maison que sa tante, Madame de Sourdis, lui prête. Sa tante n'est pas sur place, sa tante, elle est à Chartres. Gabrielle lui écrit pour qu'elle vienne immédiatement lui tenir compagnie. Elle est fatiguée, elle est enceinte. Le lendemain, elle se rend à Confesse, puis l'après-midi, elle écoute l'office des ténèbres. Elle rentre se coucher et elle est prise d'une violente névralgie et tombe en convulsion. Le jeudi saint s'annonce des douleurs de l'accouchement. Elle en est à 7 mois, qui s'accompagnent de nouvelles convulsions. Le vendredi saint, elle est faible, elle fait une hémorragie. Le chirurgien sort l'enfant mort. L'après-midi, les douleurs sont épouvantables. Elle perd la parole, l'ouïe, la vue, et meurt au petit jour du samedi saint, 10 avril 1599. Elle a 25 ans. Nous allons faire une autre pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je viens de vous parler de la mort de Gabrielle d'Estrées, la maîtresse d'Henri IV. L'autopsie est pratiquée, le poumon et le foie sont gâtés, elle a une pierre dans un rein et le cerveau est, dit le chirurgien, offensé. Des rumeurs alors d'empoisonnement courent. En réalité, elle est morte d'une éclampsie puerpérale. On prévient le roi. Gabrielle lui a écrit pour lui demander de l'épouser in extremis afin de légitimer leurs enfants. Alors Dornano a pris la route de Fontainebleau pour dire au roi que sa présence à Paris n'est pas tellement souhaitable. Il se rencontre à Villejuif, si bien que le roi fait demi-tour, il prend le deuil en noir puis en violet. La reine Margot relance le roi, elle et le duc de Rosny, pour hâter la procédure de son démariage. Finalement, on y arrive. La sentence est prononcée le 17 décembre 1599. Margot garde son titre de duchesse de Valois. Elle reçoit 2 pensions de 50 000 livres chacune et 200 000 écus d'indemnité. Alors revenons au problème religieux. Même s'il n'y a plus de massacre, les esprits quand même sont souvent en effervescence. Les grands seigneurs catholiques ne rêvent que gouvernements et pensions. Les grands seigneurs protestants, eux, voudraient bien des principautés et la direction militaire du parti huguenot. Les catholiques veulent voir se rétablir un catholicisme d'État tout-puissant, exclusif. À leurs yeux, les réformés sont une secte qu'on tolère pour l'instant, mais qu'il faudra bien réduire demain. Henri IV prend l'initiative. Il demande à ce que des commissaires huguenots se rendent auprès de lui avec leurs souhaits. Ils arrivent à Paris, entament des discussions avec les représentants du roi. Et on arrive à s'entendre. L'édit est signé à Nantes le 13 avril 1598. C'est une paix religieuse qui est accordée aux huguenots. Ces derniers peuvent pratiquer leur foi en toute liberté de conscience, cependant pas de culte public. Le roi leur accorde des places de sûreté ou de refuge, telles que Saumur, Loudun, Saint-Jean-d'Angély, Montpellier, Vitré, Sancerre, Montauban, Nîmes, Uzès, Grenoble, Mantes et Pontivy. J'ai fait exprès de tout vous citer pour vous montrer quand même que ça a été une mauvaise idée. Finalement, pourquoi ? Parce qu'ils financent l'entretien des garnisons et en quelque sorte, on peut dire qu'ils financent la possibilité de rébellion. Henri IV reste fidèle à ses alliances protestantes, les princes allemands, la reine Élisabeth d'Angleterre. Il est favorable au retour des jésuites, ne serait-ce que pour leur rôle dans les écoles. Alors il envoie donc Maximilien de Béthune, c'est-à-dire le duc de Rosny, c'est-à-dire Sully, à Rome. Le pape accepte, en contrepartie de ce retour, interdiction de faire de l'agitation politique, obligation d'avoir la nationalité française, serment de fidélité au roi. Le pape Clément VIII est d'accord, donc retour des jésuites. L'Église de France, elle a bien besoin de réformer parce que le clergé est absolument désastreux. Il y a plein de cures qui n'ont plus de curés, les prêtres qui sont là sont des prêtres qui ne sont pas instruits, des régions entières sont déchristianisées, alors que l'Église réformée, elle est bien structurée et bien instruite. Les années passant, les abus quand même diminuent. C'est le roi qui nomme les évêques et il prévient évidemment après ça le pape qui dit oui ou non. Et les abbés qui sont bien différents des précédents. Ils sont mieux instruits, de mœurs plus chrétiennes. Un édit de 1606 assure dignement les revenus de chaque cure. Les prêtres sont instruits et bien payés. Il nomme des gens d'origine modeste, comme par exemple Arnaud d'Ossat qui devient cardinal. Même renouveau dans les ordres religieux. De nouveaux ordres se répandent, les carmélites par exemple, implantés en 1604 grâce à Pierre de Bérulle, c'est celui qui a fondé l'oratoire, les ursulines. Et puis en 1609, Angélique Arnaud, fille de parlementaire, applique à son abbaye de Port-Royal la règle stricte de Saint-Bernard, c'est-à-dire clôture et pauvreté. Quant au gouvernement de la France, Henri IV pense que la meilleure équipe gouvernementale doit être formée de fonctionnaires d'expérience, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà là sous Henri III. Comme chancelier, il prend Cheverny, qui ne lui est pas très sympathique, mais il le trouve bon, et il a tenu lui le sceau pendant 10 ans. Tous ceux de la promotion 1588, c'est-à-dire sous Henri III, tous ceux-là sont reconduits. Le ministère reste en place, avec une remarquable stabilité. Nicolas de Neufville de Villeroy est l'un des patriarches. Il a exercé sous les Valois pendant 21 ans et en 1594, il reprend du service pour 22 ans. Il est l'interlocuteur du roi pour les affaires étrangères. Les ministres proposent, le roi prend les avis et dispose. Sa décision est solitaire et irrévocable. Et ses ministres sont convocable à tout moment. Le roi tient au petit nombre et au secret. Les séances ont lieu de très bonne heure avant la messe quotidienne. Parmi tous ces ministres, il y en a un qui sort du lot. C'est celui que l'on connaît davantage sous le nom de Sully. Vous savez, celui qui a dit « labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France ». C'est l'un des plus anciens compagnons d'armes d'Henri IV. Son nom entier, c'est Maximilien de Béthune. Sa famille est l'une des premiers lignages de France. Il est né le 13 décembre 1559. À la mort de son frère aîné, il devient, Maximilien de Béthune, baron de Rosny. en 1575. Et en 1606, le roi le fait duc et pair de Sully. C'est sur Sully-sur-Loire. Hein. Sa fortune est considérable. Il vit dans ses châteaux sur un pied princier. En 1607, il y a plus de 30 ans que Sully est au service du roi. Je vous rappelle qu'il est protestant et qu'il s'y tiendra. Les archives nationales possèdent les papiers de Sully, notamment les registres de comptes de sa gestion. A priori, rien ne le préparait à s'occuper des finances, mais il a un sens aigu et de l'organisation et d'excellente qualité pour gérer ses propres deniers. Donc le roi se dit, s'il sait bien gérer ses propres deniers, il saura gérer les deniers de la France. En 1594, le roi supprime la fonction de surintendant des finances et la remplace par un conseil de 9 membres. Et Rony n'y figure pas. Mais Henri IV ne tarde pas à déchanter. La guerre s'éternise, donc le roi demande de l'argent frais. Eh bien, le conseil répond par des jérémiades et déclarations d'impuissance. Alors, il décide de faire entrer Rony au conseil. Il faut trouver du numéraire où il est. Rony l'a compris. 5 commissaires sont envoyés à travers la France pour faire rentrer les deniers publics. Eh bien, on parvient à ramener d'Orléans et de Tours plusieurs charrettes remplies de 300 000 écus. Le roi prend l'habitude alors de ne plus passer par le conseil, mais de s'adresser directement à Rony. Quand Henri IV arrive au pouvoir, la dette est colossale. Alors Sully applique une méthode radicale. Elle n'est pas jolie, mais je vous la donne. Il fait traîner les négociations avec les prêteurs le plus longtemps possible, parfois jusqu'à la mort de ceux-ci. Ensuite, il rogne sur les intérêts. Il fait examiner et réduire les créances de façon à débourser seulement le jour où l'adversaire est trop heureux de récupérer si peu que ce soit. Élisabeth Ier et les princes allemands sont traités de la même façon. En 1599, Sully fait lancer une grande enquête par toute la France pour examiner le bien fondé des titres de rente, car il en est persuadé, et il a raison finalement, que certains sont supposés ou falsifiés. De même, il fait rendre tous les cadeaux faits sous forme d'impôts et de droits divers, de taxes, de passe-droits. Sully n'est pas un financier hors pair, on ne peut pas dire que c'est un théoricien, mais il a le goût des chiffres, une puissance de travail prodigieuse et le don de faire travailler le personnel. Eh bien, il y en a d'autres qui vont s'en souvenir, je vous en ai parlé, ça va être le cardinal Fleury et Talleyrand. Quand en 1611, Marie de Médicis, qui est régente à ce moment-là, lui demande l'état des finances, non seulement le budget est en équilibre, mais il y a de la réserve. Sous son gouvernement, se crée un nouvel impôt, la Paulette, du nom du secrétaire de chambre du roi qui s'appelait Charles Paulet. Il en a l'idée. Ceux qui ont acheté une charge peuvent vendre ou transmettre leur charge à condition de payer une taxe au trésor et de vivre encore 40 jours après l'obtention par leur successeur des lettres de provision. Alors on avait imaginé ce procédé pour empêcher les transmissions in extremis. Au lit de mort, cela entravait l'hérédité automatique et donnait libre cours à tous les subterfuges. Par exemple, on cachait les cadavres des titulaires pendant le temps légal. Dorénavant, on abolit la règle des 40 jours, moyennant une taxe, mais pas payée en une fois, une taxe annuelle au trésor public, 1/60 de la valeur de l'office. Donc tous les ans, l'argent va rentrer. Sully s'occupe aussi de la voirie. Il crée un véritable corps des ponts et chaussées. Il organise des tournées d'inspection des travaux. Il établit des budgets annuels de prévision et la stricte programmation géographique des travaux. Naît alors un nouveau type de serviteur de l'État, l'ingénieur. On dresse des cartes régionales, on examine les fortifications des villes et des citadelles, on répare, on augmente, on en crée de nouvelles. Le grand réseau routier en étoile autour de Paris qui date de Louis XI est en piteux état. Sully fait reprendre les grands chemins. Des arbres sont plantés sur les bas-côtés. On les appelle les ormes de Sully. Aussi des tilleuls. Des ouvrages d'art sont jetés sur les rivières. L'immense pont de Châtellerault, par exemple, sur la Vienne, mesure 137 mètres de long. Vous mentionnez aussi le pont Neuf à Paris, un pont à Mantes, à Rouen, à Toulouse, à Grenoble, à Amboise, à Blois. Le réseau des relais est amélioré, ce qui permet des voyages plus rapides. On rend les rivières plus navigables, la Loire et la Seine en particulier. On assèche les marais. Sully et le roi s'intéressent aux canaux. La grande entreprise du règne, c'est le canal de Briare, de la Loire au loin, mais il ne sera ouvert en finalement qu'en 1649. L'ingénieur Raymond de Bonnefonds fortifie Toulon. On commande des galères, dès 1603, à un armateur génois, puis on regarde comment elles sont faites et on en construit à Toulon et à Marseille. Elles servent à faire la chasse aux corsaires turcs. Sully crée les compagnies de navigateurs pour le commerce avec les Indes orientales. On fait une action aussi au Canada qui est prometteuse, parce que depuis François Ier, les pêcheurs et les marchands français y ont déjà leur habitude. Champlain, alors, établit un vaste espace qu'on nomme la Nouvelle-France, et une autre expédition aboutit au peuplement du site de Port-Royal. Une nouvelle expédition en 1608 crée encore une base, c'est Québec. C'est plutôt le roi qui pousse à ces expéditions, parce que Sully, lui, n'en voit pas l'intérêt. Les intérêts du roi et de Sully se portent aussi sur l'agriculture, pour remédier à la pauvreté des paysans. Pauvreté due à la guerre, bien sûr, et aux conditions climatiques. Alors il faut d'abord sécuriser les campagnes. Deux ordonnances interdisent aux soldats de se répandre dans les champs. On allège aussi la taille, c'est l'impôt payé par les paysans. On allège aussi les dettes des paysans. Le bétail et les bêtes, par exemple, sont déclarés insaisissables en cas de poursuite par les créanciers. Des terrains communaux sont créés. Ils permettent à la population modeste de faire paître le bétail. La chasse dans les blés et les vignes est réglementée en fonction des saisons. On acclimate de nouveaux produits, par exemple les pêches, les abricots, les melons. Le roi convoque un gentilhomme calviniste réputé bon agronome, c'est Olivier de Serres. Il a 60 ans et depuis longtemps il exploite sur ses terres des mûriers et des vers à soie. Ils ont ensemble plusieurs entretiens et le roi lui demande de rédiger un livre qui s'appelle « Le théâtre d'agriculture ». Le roi d'ailleurs en assure la diffusion partout. C'est plutôt un traité d'économie domestique. Il prône des cultures nouvelles, le mûrier, le maïs, le houblon, la betterave, et des fleurs nouvelles, les roses, des œillets. On y trouve aussi un jardin médicinal et un jardin fruitier. La vigne connaît un nouvel essor dans le Languedoc. Un effort est fait pour encourager l'élevage du cheval avec la création des haras. La reprise est incontestable. La quantité des grains vendus sur le marché s'est accrue. Le vignoble s'est étendu, l'élevage est répandu. La reprise a permis de passer le cap des mauvaises récoltes de 1604 et 1607. Toute cette réussite devrait satisfaire toute la population des campagnes. Or, le mécontentement subsiste. Pourquoi ? Parce que la terre n'appartient pas aux paysans, tout au moins elle appartient que pour une faible part. Les plus grandes étendues, les plus fertiles aussi, appartiennent aux propriétaires féodaux. Même sous le roi de la poule au pot, la misère peut conduire à la révolte individuelle et au désespoir. Nous verrons ça la semaine prochaine. Au revoir à tous. Yeah.